grand témoin. Le grand témoin, Louis Dauphresne.
Certains événements ont eu beau se dérouler il y a certains temps, ils continuent à mobiliser l'attention car il y a des questions restées sans réponse. C'est le cas du génocide survenu au Rwanda en 1994. Alors il va falloir remonter un petit peu le temps, c'était il y a 27 ans. On continue à enquêter sur le sujet, beaucoup de passion se déchaîne toujours à propos de cet événement terrible. Récemment, le 26 mars, la commission de recherche sur des archives françaises relatives au Rwanda et au génocide des Tutsis remettait son rapport au président Emmanuel Macron. L'historien qui la préside, Vincent Duclerc, estimait que la France portait des responsabilités lourdes et accablantes dans la tragédie. Également, Alain Juppé, chef du Quai d'Orsay de 93 à 95, reconnaissait dans une tribune parue dans Le Monde que la France n'avait pas accompli assez face au génocide et n'avait pas compris qu'un tel massacre ne pouvait supporter des demi-mesures. Alors ce matin, ça n'est pas directement sur le rôle de la France que l'on va appuyer notre propos. Pendant ce temps, on parle peu d'une question essentielle qui est pourtant l'événement déclencheur du génocide. C'est de savoir qui a tiré sur l'avion qui a donc été détruit et qui transportait Juvénal Habyarimana et son homologue burundais le soir du 6 avril 1994. Cette question, ça fait 27 ans en fait qu'elle dure. C'est donc, je le disais à l'instant, l'événement déclencheur du génocide. Beaucoup s'y sont attelés. Et Charles Onana en particulier, qui est avec nous, qui est spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs et des conflits armés, docteur en sciences politiques, publie Enquête sur un attentat, Rwanda, le 6 avril 1994, aux éditions de l'Artilleur. Et d'une certaine façon, il relance notre attention et notre intérêt pour ce sujet. Bonjour Charles Onana.
Oui, bonjour.
Alors expliquez-nous, parce que dans l'esprit de la plupart des personnes qui nous écoutent, le Rwanda, le génocide 94, c'est quand même un événement lointain, à la fois dans le temps et dans l'espace. Il est proche pour une autre raison, c'est que le Rwanda était un pays où l'Église est très présente et donc il y a eu un effet de stupéfaction quand on a vu ce génocide épouvantable survenir. Vous, vous avez étudié quel aspect précisément de cette crise qui a mêlé la France, et peut-être voulez-vous réagir à certains éléments que j'ai pu mentionner, le rapport Duclerc et la tribune d'Alain Juppé.
Non, je laisse le volet politique, parce que pour moi, le rapport Duclerc est un rapport politique, bien qu'il soit piloté par des historiens pour lesquels je n'ai absolument rien à dire. Mais je pense qu'il s'agit d'une mission politique et donc les historiens ont rempli une mission politique. Donc,
la mission politique, ça consiste à dire la version que souhaite entendre le pouvoir actuel à Kigali.
Et puis surtout, on nous a laissé entendre, en tout cas, le président de la commission nous a laissé entendre qu'il s'agissait de rapprocher le Rwanda de la France, etc. Donc, pour la recherche pure et dure, on n'est pas intéressé par ce type de situation.
Donc, on laisse de côté le rapport Duclerc.
Voilà. Donc, ce qui m'a intéressé et qui est le point de départ, en fait, de mon engagement dans le dossier du Rwanda, c'est l'affaire de l'attentat contre deux chefs d'État africains en exercice qui ont été tués le 6 avril 1994. Il se trouve que les Nations Unies, dès le début de cette affaire, a considéré que cet événement est l'événement déclencheur de la tragédie rwandaise. Problème, c'est que lorsque ce dossier est arrivé devant le Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui a été créé pour juger tous les crimes qui ont été commis, je rappelle, dans le mandat qui avait été attribué au Tribunal pénal international par le Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était d'examiner tous les crimes du 1er janvier au 31 décembre 1994. Donc, vous l'avez dit tout à l'heure, l'attentat a été commis le 6 avril 1994, donc il rentrait complètement dans le champ de compétence du tribunal. Ce qui n'a pas été fait. C'est-à-dire que l'ensemble des procureurs, sauf Carla Del Ponte, qui était dans ce tribunal, qui a d'ailleurs ouvert les portes du tribunal au juge Bruguière, tous les autres procureurs ont refusé d'enquêter sur cet attentat, arguant que cet attentat ne relevait pas des compétences du tribunal. C'était quand même une absurdité totale. Donc finalement, ce sont les veuves françaises, parce qu'il faut rappeler qu'il y a eu deux chefs d'État africains qui ont été tués avec leurs collaborateurs.
Trois membres d'équipage français.
Et trois membres de l'équipage français, c'est-à-dire le pilote, le copilote et le mécanicien navigant. Donc c'est à la suite de cet événement que les veuves françaises ont déposé une plainte auprès du doyen juge d'instruction à Paris, qui a ouvert effectivement une enquête. Et le premier juge qui a été saisi par cette affaire, c'est le juge Bruguière. Il se trouve que le juge Bruguière a enquêté pendant près de 8 ans, 8 ans quand même. Et il a lancé 9 mandats d'arrêt internationaux contre les proches de l'actuel président du Rwanda, Paul Kagame.
Donc des Tutsis, les Tutsis du FPR.
Absolument. Il se trouve que ce n'est pas, le juge Vulgaire n'était pas le seul à avoir fait une enquête. Et je reviens sur l'ensemble des enquêtes. Il y a eu, la première enquête avait été faite par l'auditorat militaire belge, qui était dirigé à l'époque par M. Van Winsen. Il est décédé aujourd'hui. Il y a eu 2 enquêtes confidentielles qui ont été faites par le tribunal pénal international. Il y a eu l'enquête espagnole dirigée par le juge Mereles. Et toutes ces enquêtes...
Pourquoi les Espagnols ont-ils enquêté?
Alors, parce qu'il y a eu... Il y a eu des Espagnols qui ont été tués au Rwanda en 1994, des membres de Médecins du Monde. Mais il y a aussi eu un prêtre, le Père Valmajou, qui a été un prêtre espagnol, qui a été assassiné par les éléments du FPR. Donc c'est comme ça que la justice espagnole a été saisie et évidemment a ouvert une enquête. Il se trouve que toutes ces enquêtes pratiquement...
Vont dans le même sens ?
Vont dans le même sens. Et chose étonnante, en France... Au terme de l'enquête Bruguière, eh bien, il y a l'enquête du juge Trévidic qui va reprendre l'enquête du juge Bruguière.
Et qui ne dira pas la même chose. Hein. Jean-Louis Bruguière dit une chose et Marc Trévidic, c'est différent.
Marc Trévidic a repris cette enquête. Il est reparti au Rwanda, investigué avec des experts, parce qu'on reprochait au juge Bruguière de ne pas être allé au Rwanda. Donc, pour tous les experts parmi nous et d'autres gens qui s'attendaient à ce que cette enquête finisse donc par faire mieux que l'enquête du juge Bruguière et donc par nous désigner évidemment les coupables.
Voilà.
Eh bien non, ce qui est ressorti de l'enquête du juge Trévidic et de l'enquête, parce qu'après le juge Trévidic, le dossier a été repris par Nathalie Poux et le juge Herbeau, eh bien ils sont arrivés à un non-lieu. Et qu'est-ce que ça veut dire le non-lieu pour les gens qui ne comprennent pas le langage juridique? Ça signifie qu'on ne sait pas. Alors, le juge Bruguière dit « Moi, j'ai un soupçon contre 9 personnes » et ses successeurs disent « On ne sait pas ». Alors, vous vous imaginez, 25 ans d'enquête, les familles des victimes françaises et les familles des 2 chefs d'État africains qui attendent et on leur dit au terme de 25 ans qu'on ne sait pas. Entre-temps, en France, on juge les auteurs de génocide, on juge, on condamne les personnes qui ont participé au génocide. Au sein du tribunal pénal international, on juge et on condamne les personnes qui ont commis le génocide. Mais pour ce qui est des auteurs de l'attentat, donc 2 chefs d'État, mais on dit on ne sait pas.
Et pourquoi ?
Eh bien, là est la véritable question. Et c'est pour cette raison que j'ai fait ce livre, pour rappeler quand même que...
Mais ce n'est pas le premier que vous faites, Charles Onana, sur le sujet.
Non, ce n'est pas le premier. Le tout premier a été fait en 2002, et qui avait pointé le président Kagame, c'est-à-dire l'actuel président du Rwanda, comme l'un des responsables et bénéficiaires de cet attentat. Eh bien, il a déposé une plainte devant la 17e chambre à Paris.
Mais il l'a retirée.
Il a retiré la plainte. Bon, donc, ce qui est quand même étonnant...
Vous avez pu aller au Rwanda ou pas ?
Mais évidemment, je suis peut-être courageux, mais je ne suis pas suicidaire. Si on constate quand même que tous les Rwandais qui se sont intéressés à l'attentat ont fini soit disparus, soit assassinés, eh bien, je pense que dans ces conditions, même le juge Bruguière, d'après quand j'avais rencontré le procureur Carla Del Ponte à l'époque, elle m'avait dit que si le juge Bruguière s'était rendu au Rwanda, eh bien, il y a de fortes chances qu'il ne serait pas revenu à Paris.
Finalement, c'est le juge Bruguière qui est allé le plus loin dans cette histoire, puisque 9 mandats internationaux, ça veut dire qu'on a des noms et des visages derrière.
Absolument, absolument. Et le juge Bruguière, jusqu'à présent, et c'est ça qui est très intéressant dans cette histoire-là, c'est qu'avant le juge Bruguière, les enquêteurs du tribunal pénal international avaient emprunté la même piste. C'est-à-dire qu'ils sont arrivés à la conclusion que ce sont les gens du FPR qui ont abattu l'avion. Et le juge espagnol qui, lui, a repris l'enquête, je dirais, au terme de l'enquête du juge Bruguière, est arrivé également à la même conclusion. Le problème de l'enquête Trévidic et de l'enquête de Mme Poux et de Herbeau, c'est que leur enquête ou leur conclusion n'est recoupée par aucune autre enquête internationale. Et donc, évidemment, c'est une question qui est totalement absurde et qui est très, très pénible pour les familles des victimes.
Alors vous, Charles Onana, vous retracez toutes ces enquêtes, vous les mettez à nu, vous retissez les fils de tout cela et c'est tout à fait passionnant de vous suivre. Il y a des questions quand même qui se posent, on va essayer de faire vite, inévitablement, parce qu'on se reportera à votre ouvrage qui s'appelle « Enquête au pluriel sur un attentat ». Quel était l'intérêt du FPR, puisque... C'est lui qui est désigné, c'est-à-dire donc à l'époque des rebelles Tutsis qui voulaient renverser le pouvoir Hutu. Quel était l'intérêt d'abattre cet avion dans la mesure où cet événement a été le déclencheur du génocide dont des Tutsis ont été victimes? Autrement dit, quel était l'intérêt pour un clan ou un camp Tutsi venu d'Ouganda et qui menait la rébellion depuis 1990 contre le pouvoir hutu, d'abattre un avion qui allait inévitablement créer un chaos au Rwanda contre leur propre camp, si on peut dire.
Alors, ce qui est très simple à comprendre dans cette affaire et qui est difficile pour les gens qui ne comprennent pas, c'est qu'on fait commencer la tragédie du Rwanda avec le génocide en 1994. Mais si on revient un tout petit peu en arrière, pour pouvoir bien comprendre comment les choses vont s'articuler, il faut savoir que les événements du Rwanda commencent quand même en 1990, le 1er octobre, lorsque le FPR, dirigé par Paul Kagame, lance une première offensive contre le régime du président Habyarimana, chef de l'État en exil au Rwanda.
Alors que le Rwanda vient d'être visité par le pape.
Voilà. Quel est donc leur objectif ? Leur objectif, clairement affirmé et affiché à l'époque, est de renverser le régime en place. Et c'est à la suite de cette tentative de renversement du régime qui échoue, puisque la France intervient avec l'aide du Zaïre, du maréchal Mobutu, qui est le pays voisin, eh bien, ils interviennent pour empêcher le chaos dans le pays. Mais le FPR n'a pas accepté cette défaite militaire, dont le FPR s'est reconstitué dans le nord du pays, a occupé la moitié du pays, et c'est dans ce cadre-là que la France, du président Mitterrand, a essayé de pousser le président Habyarimana à négocier avec les rebelles Tutsis pour le partage du pouvoir. Et d'ailleurs, c'est pour cette raison que je ne comprends pas cette obsession à accuser la France d'avoir commis des erreurs qu'on ne cite d'ailleurs pas explicitement, parce que le FPR a remercié le président François Mitterrand, cette lettre est dans les archives françaises, en disant « Merci de nous avoir aidés à discuter avec le président Habyarimana », parce que le président Habyarimana ne voulait pas discuter avec nous. Donc finalement, lorsque cette discussion a lieu, on aboutit donc à ce qu'on a appelé les accords d'Arusha, les accords de paix.
93.
En 93, qui sont supervisés par la communauté internationale. Et au terme de cet accord, eh bien le FPR, qui est constitué de la minorité Tutsi venant d'Ouganda, obtient à peu près 40% des places au sein de l'armée nationale.
Donc normalement, si je puis dire, tout va bien, Charles Nana.
Tout va bien, on est censé aboutir à une coalition Hutu-Tutsi au pouvoir pour le partage du pouvoir. Mais le problème, c'est que le FPR de Paul Kagame ne veut pas le partage du pouvoir. Il veut le pouvoir, tout le pouvoir, et pour eux, tout seul. Et donc, évidemment, ils considèrent aussi, ils ont aussi un petit contentieux qui ne se dit pas, parce que le linge sale ne doit jamais se laver en public. Ils ne considèrent pas les Tutsis qui sont restés au Rwanda comme des Tutsis qui méritent d'être protégés. Pourquoi ? Parce que pour eux, ces Tutsis-là sont des collabos, un peu comme sous le régime de Pétain, on pourrait considérer les Français de l'intérieur comme des collabos. Alors, eux, effectivement, c'est la façon dont ils voient les choses. Eh bien, ces gens-là, pour eux, le fait d'être massacrés n'est pas très important. Ce qui est important,
c'est... C'est grave ce que vous dites, hein, quand même.
Mais c'est grave, mais c'est ça la philosophie qui est la leur, et c'est comme ça qu'ils conçoivent les choses. Je veux dire que quand on fait une analyse politique, il faut regarder les choses le plus froidement possible, même si ça heurte nos sensibilités. Donc, dans cette stratégie de laisser tuer, puisque je vais rappeler, pour être encore beaucoup plus précis, c'est que pendant les deux mois avant l'arrivée de l'opération turquoise, c'est-à-dire entre le mois d'avril et le mois de juin, eh bien, pourquoi on n'arrête pas les massacres ? Le FPR avait donné 48 heures aux forces étrangères qui étaient là, les forces américaines, les forces belges et les forces françaises, de quitter le territoire. J'ai retrouvé des archives au Conseil de sécurité des Nations Unies où ils ont fait des pressions sur le Conseil de sécurité en disant qu'il ne faut certainement pas intervenir. Comment pouvez-vous agir de cette façon-là si vous avez du respect et de la considération pour les gens qui sont en train d'être massacrés ? Voilà ce qui est profondément choquant, mais qui est terrible de cynisme dans cette histoire.
Charles Nana, est-ce qu'il y a un arrière-fond géopolitique qui fait intervenir des grandes puissances dans cette région des Grands Lacs ?
Absolument. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est totalement ridicule de se concentrer sur la France et sur la France seulement. Ce qui aurait été très intéressant pour les chercheurs qui travaillent sur cette affaire, c'est de consulter les archives américaines qui ont déjà été déclassifiées. Moi, j'ai consulté une bonne partie d'entre elles. C'est de regarder les archives de la Belgique, c'est de regarder les archives de l'Ouganda qui soutenait le président Kagame. C'est de regarder les archives des Britanniques, les Britanniques qui étaient également impliqués dans cette affaire-là. Donc, quand on regarde toutes ces archives-là, eh bien, on peut avoir une compréhension claire de ce qui s'est réellement passé.
C'est-à-dire, alors là, vous allez sur un terrain qui implique, qui, ça va loin.
Alors, c'est pour cela...
Dites-nous le résumé de votre approche.
Alors, ce qui est très simple et ce qu'on ne veut pas aborder, que les chercheurs qui se sont alignés sur le dossier du génocide ne veulent pas aborder, moi, le génocide n'est pas mon sujet. Mm-hmm. Ce qui est mon sujet, c'est la géopolitique, c'est l'analyse géopolitique. Donc, lorsque le FPR de Paul Kagame est en Ouganda, ils sont soutenus militairement par l'Ouganda, qui lui-même est soutenu militairement par les États-Unis et les Britanniques. Au Conseil de sécurité, lorsque les négociations se font, évidemment, les États-Unis et la Grande-Bretagne, qui sont des pays membres du Conseil de sécurité, font pression sur le président Habyarimana pour qu'il cède le pouvoir au FPR. Et donc, on va voir également que ce sont ces mêmes pays qui vont éviter, lorsque la France va demander l'intervention de l'opération turquoise, ce sont ces pays qui vont tout faire pour que l'intervention, l'opération turquoise ne se fasse pas dans de bonnes conditions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que les Américains avaient proposé, par exemple, aux Français d'envoyer des avions pour pouvoir participer à l'opération turquoise. Mais bien, c'est pas ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont organisé une mission humanitaire bilatérale qui était propre aux Américains, qu'on a appelée l'opération Support Hope. Et donc, pourquoi faire une opération Support Hope exclusivement américaine lorsque vous avez la possibilité de participer à l'opération turquoise qui est une opération multinationale? Voilà une série de questions et de zones d'ombre dans cette affaire que les gens ne veulent pas aborder et ils restent concentrés sur la France pour mieux cacher la forêt de tous les autres acteurs qui ont participé à cette
opération. Donc les États-Unis et la Grande-Bretagne ont joué contre la France sur ce dossier-là.
Absolument.
Est-ce qu'il y a une guerre, en fait, pour des ressources naturelles?
Alors, là encore est le point final de cette affaire-là, c'est que pourquoi on a fait tout ça? C'est parce qu'il y avait un objectif très important, c'était de prendre le contrôle des richesses minières de la République démocratique du Congo. Je rappelle à tout le monde que le Congo, la République démocratique du Congo, est un pays vaste, immensément riche. C'est le pays qui a produit, la bombe atomique qui a été larguée sur Hiroshima et Nagasaki, l'uranium qui a été utilisé par les Américains à cette période-là, dans les années 40, eh bien, venait du Congo. Et j'ajouterais encore que le coltan qui est utilisé aujourd'hui pour la fabrication des téléphones portables et de nos ordinateurs, eh bien, vient de la République démocratique du Congo. Et que ce coltan-là était déjà considéré en 1942 par les États-Unis comme un produit de sécurité nationale. Donc, vous comprenez qu'on n'est pas là dans une affaire de Tutsi et Hutu, on est dans une affaire géopolitique aux intérêts colossaux.
Et pourtant, Charles Nana, là-bas, semble-t-il, c'est la Chine qui est très présente.
La Chine est rentrée dans le jeu du fait du chaos qui a été organisé dans cette affaire depuis 1994. Figurez-vous que lorsque la Chine s'impose dans cette région-là, eh bien, les Américains poursuivent également leur soutien aux côtés du FPR de Kagame et ne veulent pas que le FPR, par exemple, soit poursuivi. Qu'est-ce que m'a dit, par exemple, le procureur Carla Del Ponte lorsque je l'ai rencontré à l'AIA en 2005, dans son bureau? Le procureur Carla Del Ponte m'a dit, écoutez, moi, je ne suis pas venu au tribunal pénal international pour enquêter uniquement sur un groupe ethnique. Je suis venu remplir mon mandat. Eh bien, qu'est-ce qui est arrivé à Carla Del Ponte, dès lors où elle a commencé à enquêter sur les crimes commis par le FPR de GG par Paul Kagame, eh bien, elle a été évincée de son poste et elle m'a confirmé que ce sont les Américains qui ont décidé avec les Britanniques qu'elle doit quitter son poste.
Si je résume, Charles Onana, les États-Unis ont téléguidé le pouvoir actuel au Rwanda de Paul Kagame pour en fait mettre la main sur les richesses qui se trouvaient au Congo.
Absolument.
Si on vous suit, c'est ça.
Absolument.
C'est le fond de votre démarche. Maintenant, pourquoi ne pas avoir fait la guerre au Congo et pourquoi l'avoir fait au Rwanda où il n'y a pas de richesse naturelle en particulier? Est-ce qu'on ne pouvait pas passer par l'autre côté ou faire la guerre différemment? Est-ce que cela justifiait un génocide, en quelque sorte?
Eh bien, écoutez, là, c'est une bonne question qu'il faudrait poser aux Américains. Et il est surprenant que les gens ne veuillent pas la poser. Pourquoi ils ont fait ça? Parce que, eh bien, après la fin de la guerre froide, on ne faisait plus des conflits de façon directe, de façon frontale. On devait les faire par personne interposée. Mmh. Et la personne la plus indiquée, il faut rappeler quand même que Paul Kagame a été formé aux États-Unis et au début de la guerre, il était en formation militaire aux États-Unis. Donc, il part des États-Unis pour venir prendre la tête de la rébellion en 90, et il n'a plus jamais quitté la tête de la rébellion jusqu'à la fin de la guerre, c'est-à-dire jusqu'à la victoire finale du FPR. Et d'ailleurs, les Américains eux-mêmes s'en sont félicités en disant, bon, évidemment, finalement, peut-être que Kagame est un bad guy, mais un bad guy, c'est-à-dire un mauvais garçon, mais c'est quand même notre garçon. Donc, si vous voyez cette impunité, ce harcèlement de la France, y compris dans les médias français, bon, vous devez vous dire que la France se trouve quasiment impuissante à agir et que les dirigeants politiques français sont quasiment tétanisés, eh bien, c'est qu'il y a une force qui est extrêmement forte en face et que cette force-là, eh bien, est impressionnante. Et ça ne peut pas être pour Kagame tout seul.
Qu'est-ce que vous diriez à Emmanuel Macron qui a reçu le rapport du Clerc récemment? Vous lui avez envoyé votre enquête?
Non, je ne lui ai pas envoyé mon enquête. Je pense que c'est un grand garçon. Il sait exactement ce qu'il fait et qu'aujourd'hui, ce que les Africains considèrent simplement, c'est que à force de se coucher devant Paul Kagame, on ne voit pas très bien ce que les Français, quand je dis les Français, c'est que le peuple français gagne dans ce rapprochement dans lequel quand même non seulement 3 membres de l'équipage français ont été tués, mais 2 militaires français également ont été tués.
Au regard de la justice, on n'attend plus aucune décision judiciaire?
Non, pour l'instant, les parties civiles ont saisi la cour de cassation
maintenant,
parce que quand même on est face à une situation qui est ubuesque. Il y a un juge français qui est quand même le père du terrorisme, de l'antiterrorisme en France, Jean-Louis Bruguière, qui arrive à 9 mandats d'arrêt internationaux, et ses successeurs disent que nous on ne sait pas.
Et il s'exprime sur le sujet en ce moment?
Non, le juge Bruguière, ben évidemment, vous avez vu qu'il est quasiment insulté, ridiculisé dans tous les médias, comme si le juge Bruguière était strictement un bon à rien. Et ça, c'est quand même quelque chose de totalement surprenant, que même des magistrats français ne s'indignent pas de cette situation.
Pourquoi les médias, si on vous suit, Charles Ananas, sont-ils l'objet, le terrain d'un tel parti pris?
Eh bien, ça, c'est une bonne question qu'il faut poser aux journalistes français, aux médias français, y compris ceux qui étaient au Rwanda en 1994, qui ont participé à l'opération turquoise et qui ont vu comment les militaires français se sont comportés sur place. Comment peuvent-ils venir dire aujourd'hui le contraire de ce qu'ils n'ont pas pu dire en 1994 et le contraire de ce qu'ils ont vu en 1994?
Le fait aujourd'hui, c'est que l'armée française passe pour complice d'un génocide, etc. C'est leur thèse.
Oui,
je
note quand même, après avoir publié un livre sur l'opération turquoise, qu'on finit par dire du bout des lèvres que finalement, l'opération turquoise est quand même assez bien passée. Mais enfin, ce n'est pas ce qu'on nous a dit pendant des années. On nous a dit pendant des années que les gens de l'opération turquoise avaient livré des armes aux génocidaires, qu'ils avaient aidé les génocidaires à fuir, etc. Aujourd'hui, tout le monde recule et on ne nous dit pas que finalement, toutes ces accusations ont été quand même fausses.
Vous avez un calendrier médiatique, Charles Ananas, aujourd'hui vous êtes invité dans les rédactions, ce sera ma dernière question.
Eh bien, je ne sais pas si après avoir dit ce que j'ai dit et après avoir écrit ce que j'écris, eh bien, moi je ne demande que d'avoir une confrontation intellectuelle de haut niveau avec tous les gens qui se considèrent comme des experts dans ce dossier.
C'est votre première radio là, ce matin?
Absolument.
Bon, bah écoutez, on va voir comment ça se passe après.
Merci beaucoup.
Merci d'avoir été des nôtres, Charles Ananas, enquête sur un attentat, Rwanda, 6 avril 94. Je précise que c'est préfacé par Adolfo Pérez Esquivel, prix Nobel de la paix. 25 ans d'investigation pour un non-lieu, c'est cette question qui est posée aujourd'hui. Cette date du 6 avril 94, y aura-t-il un jour une réponse? Et bien pour cela, Charles Ananas nous apporte des éléments et je le remercie d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée.
Merci.